Kultur um 5.
Heute noch um 19:30 kann ich am Kammermusiksaal von der Philharmonie ob ein musikalisch Zeitreis mitgehen. Und zwar an Paris vom 17. Jahrhundert, auf dem ich genäht zu sehen, an den Palais du Louvre. Unter dem Titel Le Coup de Majesté präsentiert ein Ensemble Le Poème Harmonique unter der Leitung vom Theorbist Vincent Dumestre und mit der Mezzosopranistin Eva Zajcik ein Vielfalt du Klänge aus dieser Epoche. Das Programm umfasst Ballet in der Kammermusik bis zu Trinklieder, Volkslieder und Extrem aus italienischen Opern. Marie Trussard hat sich mit Vincent Dumestre, den den Ensemble Le Poème Harmonique auch mitgerannt hat, über seine Passion für die Kultur vom 17. Jahrhundert erhalten und darüber, was für ein Zeitreis der Publik den Abend erwartet.
C'est un voyage dans le temps et c'est un voyage aussi dans le Louvre, tout simplement, parce qu'en fait, c'est un, vous le savez, c'est un musée qui est aujourd'hui un des plus visités dans le monde. Et on oublie que ça a été un château très important, aussi important sinon plus que Versailles, qui maintenant est un peu un symbole de la France. Et voilà, les rois se sont succédés dans le château du Louvre et la musique s'est succédée aussi. Avec bien sûr, on le sait, avec les fastes qui ont préexisté, qui n'ont pas été seulement ceux de Louis XIV et de Versailles. Il y avait beaucoup de grands fastes musicaux et théâtraux au Louvre. Mais il y avait aussi l'intimité. Donc en fait, l'idée, c'était de voilà tout simplement de donner une image musicale de ce château et de ce qui a été inventé, créé, ce qui a vécu là-bas, à la fois dans les grandes formes, on fait des extraits des ballets royaux par exemple, de Lully, mais aussi de musique instrumentale, d'air de cour, parce qu'en fait c'est autour du château, autour des courtisans de Louis XIII et puis au tout début du royaume de Louis XIV qu'on a inventé cette musique typiquement française qui est l'air de cour. Et même on va jusqu'à la chanson parce qu'on l'oublie, mais autour de ce palais qui était un palais très vivant, dans les couloirs ou dans les ruelles aux alentours, on chantait évidemment. À l'époque, tout le monde chantait. Il y avait même des interdits, figurez-vous, de chanter à moins de 40 mètres les uns des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des chanteurs de rue partout dans Paris, et notamment autour du château du Louvre. Et il était interdit, ça c'est assez drôle, il était interdit de chanter à moins de 40 mètres les uns des autres. Donc c'est pour vous donner une idée d'un Paris et d'un château du Louvre qui résonnait en permanence de musique, y compris de chansons populaires. On avait, à l'époque où, évidemment, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'autres moyens de partager de manière conviviale l'art, la chanson était un fondamental, on pourrait dire, et à la fois donc pour les princes, pour la noblesse, pour les bourgeois et aussi pour tout le monde. Voilà, et c'est un petit peu cet univers qu'on a voulu montrer dans un programme en musique de chambre, finalement. Mmh.
Donc au programme, il y aura des ballets de cour, des airs à boire, de l'opéra italien. Et c'est avec ça que vous allez essayer de raconter ou de dessiner l'histoire musicale du Louvre. Et est-ce qu'on pourrait dire que ces morceaux ont en commun la culture française, la culture musicale française alors ?
Oui, et beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, l'Europe était beaucoup plus présente qu'on veut bien l'entendre aujourd'hui. Et notamment, alors c'est justement intéressant, qu'on a parlé pour l'instant de tout ce qui est franco-français, ou typiquement français, à partir d'un Jean-Baptiste Lully, qui pourtant n'est pas français lui-même, puisqu'il est italien, mais bon, il a fait toute sa carrière en France. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un premier ministre, donc Mazarin, venait de Rome, était un grand amateur de musique lyrique, telle qu'à l'époque, on commençait à l'entendre. C'est-à-dire que l'opéra venait juste d'être inventé. Et Mazarin veut absolument faire connaître à la cour la joie, le bonheur d'entendre des opéras, d'entendre ce répertoire italien. Car en France, on ne pratique pas du tout. Il n'y a pas encore d'opéra français en 1645. Ça ne commencera qu'à partir de 1673. Et du coup, Mazarin importe l'opéra italien. Donc on peut entendre à la cour des premiers opéras dans le palais du Petit Bourbon, par exemple. Et là, c'était vraiment devant 20 personnes. Donc c'était vraiment extrêmement intime. Il y a eu l'Orfeo de Rossi qui a été donné en 1947 au Palais Royal, un opéra de Monteverdi, etc. Donc, en fait, Oui, on entend, oui, on découvre une image de la musique française, ou plutôt de France, mais au sens large, c'est-à-dire avec toutes les influences aussi, les influences espagnoles par exemple, ou les influences régionales. Et voilà, ça vous donne en fait un espèce de panel de ce qu'a pu être entendu, voilà, de la chanson jusqu'à l'opéra, de la France en passant par toute la France, toutes les régions, et puis jusqu'à la grande musique, celle de Lully, qui est aujourd'hui un symbole de cette époque-là.
Le poème harmonique existe depuis maintenant presque 3 décennies, et vous vous êtes donc spécialisé dans la musique de 2 siècles consécutifs. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette musique bien spécifique jusqu'à aujourd'hui ?
Oh bah, qu'est-ce qui est fascinant ? J'aurais facilité à vous dire que tout simplement c'est la qualité de cette musique qui me passionne. Avant d'être musicien, ou parallèlement à mes études de musique, j'ai fait l'école du Louvre. Mm-hmm. Je me suis intéressé beaucoup à l'architecture, aux beaux-arts d'une manière générale. Donc c'est vrai que cette donnée-là a toujours beaucoup compté pour moi. Et je trouve que, en particulier le XVIIe siècle, se comprend d'une manière globale. On comprend la peinture d'un Philippe de Champaigne parce qu'on comprend la musique de Marc-Antoine Charpentier. Enfin, il y a une logique, mais de même qu'on comprend Caravage, quand on connaît les opéras de Carissimi. Enfin, il y a une logique à aller dans les deux sens. Et voilà, je suis un grand amateur de littérature, de peinture et des beaux-arts d'une manière générale de l'époque baroque. Et ayant fait mes études d'abord de guitare classique, ensuite j'ai choisi cette époque-là pour ce qu'elle offre au point de vue musical, mais aussi par rapport à ce qu'elle offre d'une manière générale, donc à l'amateur d'art, je pourrais dire.
Vous avez donc dirigé l'ensemble de votre théorbe. Pour celles et ceux qui ne s'y connaissent pas trop en instruments anciens, pouvez-vous expliquer ce qu'est une théorbe ?
Alors, le théorbe fait partie de la famille des luths, qui n'est pas l'ancêtre de la guitare, mais bon, quand on regarde de loin, on peut le croire. C'est-à-dire que de même que le clavecin n'est pas l'ancêtre du piano, mais il y a évidemment un rapport assez évident entre l'un et l'autre. C'est un instrument qui ressemble au luth, mais à qui on a rajouté des cordes graves. Et il est né, en fait, au début du XVIIe siècle, quand on a commencé à accompagner la voix seule, hein, puisque les voix étaient plutôt utilisées dans ce qu'on appelle la polyphonie, qui est typiquement un élément typique de la Renaissance. Mm-hmm. Et puis, au début du XVIIe siècle, on a commencé à apprécier les aspects théâtraux d'une voix seule et le fait de pouvoir conter, de pouvoir chanter une histoire. C'est donc la naissance de l'opéra. Et cette naissance de l'opéra, elle s'est faite avec une évolution de ce qu'on appelle l'organologie, c'est-à-dire une évolution des instruments. Mmh. Et donc, c'est assez passionnant d'imaginer qu'en fait, à un moment donné, une époque invente un instrument. C'est-à-dire le théorbe est vraiment, qu'on appelait en Italie parfois le chitarrone, a été complètement inventé. On s'est dit comment on pourrait, comme on pourrait accompagner la voix au mieux avec des cordes graves qui donnent des résonances harmoniques. Et cet instrument, mais il y en a d'autres d'ailleurs, hein, qui sont moins connus aussi. Dans la famille des cordes frottées, par exemple, l'irone mm-hmm. a été également inventé à cette époque-là. Et donc, le théorbe de la famille des luths est une pure invention du XVIIe siècle.
Est-ce qu'il y a un des morceaux au programme qui vous plaît particulièrement ?
Ah bah écoutez, alors, il est difficile de répondre, puisque c'est vrai que je prends un soin très particulier à créer des programmes, à trouver une sorte de dramaturgie, et peut-être on vous le dira, c'est ce qui fait un peu la patte du poème harmonique, d'avoir des programmes qui sont, je crois, bien construits, en tout cas, qui ont une forme dramaturgique, et j'y mets un soin particulier, parce que c'est vraiment des pièces que j'ai découvert pour la plupart, et parfois arrangées, retravaillées, etc. Alors, s'il y avait une pièce, disons, elles sont, je trouve, toutes magnifiques, elles disent toutes quelque chose de ce programme, à la fois l'opéra, l'air de cour, le côté royal, etc. Mais peut-être on peut écouter quelque chose qui est assez atypique finalement, parce que, comme je vous disais, j'ai souhaité montrer dans ce programme le spectre complet de ce qu'une femme ou un homme à l'époque pouvait entendre. Mm-hmm. Et ce qu'on peut entendre, c'est évidemment ce qu'on entend dans les concerts, mais aussi ce qu'on entend dans les rues, ce qu'on entend dans notre famille, ce qu'on entend dans les veillées, ce qu'on entend au coin du feu le soir quand on nous chante une chanson. Et j'ai choisi une chanson qui date de cette époque-là et qui s'appelle « Quand je menais les chevaux boire ». qui est une chanson qui a traversé les siècles. Il a donc été probablement composée, alors on ne sait pas exactement quand, mais depuis le XVIe siècle en tout cas, peut-être au XVIIe, et qui a traversé les époques. On la retrouve dans certaines éditions, dans certains manuscrits au XIXe, et puis on la retrouve au XXe siècle. C'est devenu une chanson de veillée. Et les chansons de veillée sont devenues, dans les années 1950-1960, ce qu'on appelle des chansons d'enfants. Chanson d'enfance, et cette chanson donc est aujourd'hui encore chantée, ou aujourd'hui encore connue dans certains coins de France. Elle s'appelle « Quand je menais les chevaux boire » et elle est extrêmement poignante.
Voilà, Marie Trussard, ob der kleiner Zeitreise an Paris vom 17. Jahrhundert am Gespräch mit dem Vincent Dumestre. Wir kehren aber los zurück, wir überspringen ein paar Jahrhunderte an London am 21. Jahrhundert, wo den Baxter Dury, kennen wir hier, ein neues Album annonciert hat, am letzten Jahr ist ein echtes Single, die rausgebracht hat, die hieß Al Bawone. Ich hoffe, ich habe nicht richtig gesagt, wenn nicht, dann hören wir vielleicht am Refrain, ob ich falsch gesagt habe. Heißt der Baxter Dury.